Qu'en est-il de l'Allemagne vue de l'intérieur, extérieur? Qu'est-ce qui peut dire le mieux ce qui s'est passé en Allemagne? L'Allemagne a-t-elle disparu dans un trou noir? Ou bien des expériences comme celle de Fassbinder, de Karen et d'autres sont-elles disables? Mais disables en quelle langue? Tiens, comme c'est drôle, en français. Le mieux. Je suis curieux. Je me demande si la réciproque pourrait être vraie. C'est une autre question que je pose. Le français traité évidemment d'une certaine façon, c'est-à-dire très fluide, très enchanté, très chanteuse, très chantante, très orchestré, très instantané aussi, avec cet art sous-jacent de l'observation de quelqu'un qui sait que tout se passe en très peu de temps et en dit très long. Alors, un modèle féminin, tiens donc. Alors, une femme, laquelle, celle-là, chanteuse, actrice, et tout le temps actrice forcément dans la vie, et chanteuse tout le temps dans la vie, c'est-à-dire dans la vie elle-même, est une modulation constante. Un Français avec une chanteuse allemande, est-ce que ça n'est pas étrange? Si, très, c'est d'une mixité prodigieusement réussie. Comment ça peut se faire qu'on ait pu arriver à une mixité entre un homme et une femme qui donne une impression de légèreté, de cocasserie, d'attention soutenue à la moindre chose, aux détails de l'existence. C'est très très peu courant, ça, qu'un homme et une femme partagent une expérience commune dans la positivité éthique, qui évidemment reparaît dans l'esthétique. Parce que, encore une fois, je me sens très, très proche dans ma très grande solitude qui s'accroît de jour en jour de ce type d'expérience tout à fait insolite. Il n'y a rien de tel dans le paysage. C'est-à-dire l'expérience de la socialité, à privatif. Comme il faut rappeler Freud de temps en temps à 150%, précisons cette chose, que rien n'est plus asocial que l'amour, sans guillemets, entre un homme et une femme. Alors vous allez me dire, mais pas du tout, on ne parle que de ça, la publicité nous l'a... C'est pas mal, ce Zeus m'approuve. Un coup de tonnerre. Et là, on reconnaît le dieu, dirait-on en grec. Et rien n'est plus... alors hétérosexuel, enfin bon, c'est banal, c'est pas été, mais je n'ai pas dit hétérosexuel. J'ai même pas parlé de sexualité d'ailleurs. D'ailleurs, Schull se distingue par une très grande réserve sur ce plan qui aujourd'hui déborde de partout sous forme d'infâme bouillie pseudo-pornographique. Alors, oui, partout, dans les têtes, dans les comportements, même muets. Donc, rien n'est plus associable. Alors, pour résister à une emprise quasiment totalitaire, publicitaire, planétaire, de la société devenue, comme chacun devrait le savoir, la subjectivité absolue à chaque instant, et où Warhol aura donné son diagnostic, il apparaît dans le livre de Schull. Bon, enfin, c'est pas pendant un quart d'heure, même 10 minutes, que chacun désormais sera éventuellement célèbre, c'est pendant un quart de seconde, et personne ne sera célèbre non plus, en tout cas, sera montré dans sa défaillance et sa disparition, dans son irréalisation totale. Donc, tout ça, ce sont des... La société du spectacle, je me passe de la commenter, ça va, c'est tout ça devrait être bien connu. Je reviens à cette histoire de ténacité dans la relation entre un modèle et son observateur, à travers le langage. Ça voit qu'on est une chanteuse et un écrivain. Là encore, on a eu des couples comme ça. D'ailleurs, Schulz se moque un peu de ça dans son livre. Vous allez me raconter qu'il y a eu des couples célèbres, l'écrivain et l'actrice. Patati. Mais c'est tout à fait autre chose. On n'est pas du tout dans ces représentations. On est dans la critique très aiguë de la façon dont des publics divers croient à la chanteuse, à la femme. C'est-à-dire, il y a un humour absolument radical dans cette affaire. Je suis frappé dans les premières réactions à ce livre, je suis frappé d'une chose, c'est deux scènes. Il y a des réactions sur différents aspects, bien entendu sur les années 70, sur le retour des années 70, sur lesquelles les réactions font généralement le focus dessus, alors que moi j'ai traité les années 70 uniquement comme des années symptomatiques du fait que toute une époque s'achevait. C'était pas simplement, j'étais pas du tout fasciné de façon rétro par les années 70. Il s'agissait simplement d'un moment. Je me suis aperçu que c'était la période où ça basculait, on rentrait dans une autre ère. Et c'est pour ça que j'en ai parlé. Je parlais des derniers spécimens de toute une ère, comme il y a eu l'époque moyenâgeuse, puis le passage à la Renaissance, puis ensuite le passage du féodalisme au capitalisme industriel. Il m'a semblé que des années 70 ont passé dans une ère totalement nouvelle à cause des systèmes de communication, de cette épidémie qui arrivait. Tout ça a fait qu'on est rentré dans des rapports totalement indicibles, on n'a pas trouvé les mots. Et c'est pour ça que j'ai parlé des années 70. Ce que je veux dire, c'est que donc on a fait le focus là-dessus, on a fait le focus sur des tas d'aspects du livre. Il y a deux choses qui m'ont intrigué, il semblerait qu'on ne parle pas. C'est deux passages du livre qui, par ailleurs, sont assez curieux et amusants. L'un qui est le amusant, si on peut dire. L'un, c'est une scène de doublage d'un film pornographique célèbre qui était The Devil in Miss Jones par Ingrid Cavan, auquel elle prête sa voix. Et le deuxième, c'est une visite du camp de Dachau par Ingrid Cavan, qui alors est toute jeune, doit avoir 23-24 ans, avec trois de ses amis, où je raconte cette visite, où elle ne se rappelle plus de grand-chose, les choses se sont estompées. Et c'est deux choses sur lesquelles il n'y a pas de réaction. Voilà, je pose juste, j'ai pas de réponse à cette non-réaction, je sais pas ce que c'est.
Oui, alors là, basculement des années 70, je crois que c'est très très juste. Moi, je le dirais avec mes mots, c'est la fin des temps modernes. On rentre dans l'ère planétaire. Voilà. Mais ça se fait pas sans bousculade. L'ère planétaire, on y est maintenant, quoi. C'est-à-dire en communication, etc. Les événements historiques comme ruse de la technique, etc. Alors, en effet, le doublage de The Devil of Miss Jones, un des grands films pornographiques, on n'en fait plus des comme ça, si je peux dire, c'est-à-dire de ces années-là. Deep Throat, The Devil of Miss Jones, etc. C'est l'arrivée sur les écrans, en tout cas en France, c'était une explosion considérable. C'est 74, 75, Giscard tout à coup autorise la diffusion des films pornographiques. Les Espagnols se pressent à la frontière française pour aller voir ça dans des cinémas du Pays Basque. c'est un film absolument bouleversant. En effet, le fait qu'il y ait ce doublage par la voix de Cavan prêtant sa voix à ce film est un élément très très important parce que tel que c'est décrit dans le livre, elle fait ça l'après-midi, je sais pas quoi, en jean, de façon très technique et amusée. Donc distance entre l'image et le son sur des images très 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 hard. Bon, un film superbe d'ailleurs d'une certaine façon où le diable intervient. Devil. Mais qu'est-ce que c'est que le diable en somme? Ça serait peut-être cette distance qu'on peut prendre par rapport à l'image pornographique très violente, en s'en amusant et en prêtant sa voix à l'un des protagonistes, c'est-à-dire dans ce dédoublement. Dans cette... C'est peut-être pour ça qu'il n'en est pas question. C'est-à-dire, comme tout le monde sait ou devrait savoir qu'une femme s'intéresse assez peu en général à la pornographie, mais ça devient beaucoup plus grave si elle peut en effet prêter sa voix à des ébats pornographiques sans y accorder la moindre importance. Vas-y.
Oui, et d'ailleurs une des choses avec Ingrid Kleven qui est le moins acceptable, c'est que c'est quelqu'un qui joue tout le temps. Il n'est pas acceptable que quelqu'un se montre en star et l'instant d'après joue avec cette image de star. C'est quelqu'un qui a tout le temps joué. Fassbinder aussi, d'où est venue leur complicité. Ils ont adoré les jeux. Fassbinder adorait les jeux au sens littéral du mot, les jeux les plus bêtes. Ils aimaient tous les deux la bêtise des jeux et le jeu de la bêtise. Et c'est ça qui est très peu acceptable. Elle joue avec les images. Elle ne s'identifie à aucune image d'elle-même. Et là, en particulier, bon, dans cette scène, il y a évidemment un jeu avec la pornographie. Ce n'est pas acceptable. La pornographie est acceptable. Prendre, en effet, comme il se fait, ses distances avec ça, l'est de moins en moins.
Blanc sur blanc, un peu de poudre sur ta peau.
Polaroid cocaïne, chambre 1050, toujours cette histoire du simultanéisme, plusieurs choses qui se passent en même temps. Il n'y a rien à faire. Dès que je commence à suivre un fil, hop, il faut que je dévie, cette espèce de... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être une espèce de strabisme divergent de l'esprit, de la pensée. Je ne peux pas tenir longtemps. Alors, je ne peux pas tenir longtemps le fil, longtemps la même direction. Voilà, par exemple, deux chansons, chambre 1050, c'est une... En même temps, il arrive des telles choses en même temps. Je crois qu'il y a eu un mouvement littéraire qui s'appelait le simultanéisme. Oui. Dos Passos. Quoi d'autre? Bon. Je sais plus. Enfin, voilà, je suis un simultanéiste. D'accord, simultanéiste. Au fond, je suis plus. Ça s'apparente plus à la poésie ou au journalisme. Sur la page de journal, tout est là en même temps. La poésie, c'est pareil. Ce qui se rapproche le plus de la poésie, c'est la page de journal. Je me sens bien là-dedans. Peut-être que ça vient de la volonté d'arrêter le temps. Cette idée de biographie ou de roman, la biographie, pour moi, c'est insupportable, la biographie classique à l'américaine, où l'on suit un fil du début, de la naissance à la fin, inexorablement. Le roman qui va vers son issue, ou la tragédie, le théâtre, n'en parlons pas, la tragédie classique qui va vers sa fin, c'est des choses que je ne supporte pas. Alors, cette lutte contre le temps, peut-être, que nous menons chacun, où est-ce qu'elle peut le plus, le mieux se mener, en somme, cette lutte-là, avec le plus de chances pour nous, non pas de triompher, parce que nous sommes toujours perdants à la fin. Comme disait l'autre, à la fin c'est toujours la mort qui gagne, oui, bon, ok. Mais où est-ce qu'elle peut le mieux se mener de façon illusoire, mais malgré tout, après tout, comme disait un autre, c'est de combattre et de participer qui compte. C'est probablement dans ce qu'on appelle la poésie, ou éventuellement la chanson. Et dans le cas, oui, bon, ces deux petites chansons là, ça se passe dans l'une se passe dans un hôtel, chambre 1050. Il arrive des telles choses à la fois. La chanteuse répète et arrive vers elle comme vers un prisme. tout ce qui se passe dans les chambres contiguës ou pas de l'hôtel. Il y a une petite fille qui téléphone à sa mère en disant qu'elle se drogue plus. Il y a un Sex Pistol qui assassine sa fiancée, comme c'était le cas au Chelsea Hotel, de Sid Vicious, et ainsi de suite. Il y a donc des voix qui arrivent, et en même temps, la chanteuse répète une chanson. Voilà, c'est la Polaroid cocaïne, c'est aussi... Bah non, c'est pas pareil. Ce que j'aime bien dans Polaroid Cocaïne, c'est cette photo qui se dévoile, comme une photo qui se dévoile dans l'eau, je dis. Il y a de la poudre sur une photographie, et puis peu à peu, la poudre s'en va, et la photo apparaît. Et j'aime bien cette idée de dévoilement. Dans ce livre Ingrid Cavan, le livre commence par une scène de maquillage, et le maquilleur, qui est quelqu'un qui à l'ancienne travaille de façon très délicate, en faisant très peu, il fait un maquillage de cinéma à la chanteuse, il fait juste quelques petites touches, et il aime bien ça, et avec elle, il lui dit, c'est très facile avec elle, parce qu'elle a cette structure osseuse, cette bonne structure, avec les pommettes à la main Dietrich, avec les pommettes très saillantes et l'espèce de triangle caucasien. Et il lui dit, avec toi c'est facile, avec trois touches tu es métamorphosé, il suffit de rien et le masque va se révéler. Et puis à la fin du maquillage, il y a une longue séance de maquillage, et à la fin, ça y est, c'est là, le masque arrive, ça se révèle. Au fond, on revient au début de ce que l'on disait, j'aime découvrir ou révéler les choses et pas les créer ou les fabriquer. Je crois que c'est Max Ernst qui disait, il y a deux types d'artistes, il y a les inventeurs et les découvreurs, et Max Ernst se situait bien sûr du côté des découvreurs. Et moi aussi, je n'aime pas inventer, j'aime découvrir ce qui est déjà là, comme le maquilleur, maquillage Ingrid Cavan, découvre le masque qui est là dans son visage par petites touches. À la fin de la séance de maquillage, on dit ça y est, il est là, il est arrivé, le masque est là. Tout le livre, j'espère, est dans le même ordre d'idées, une révélation de certaines choses qui étaient déjà là, des objets trouvés sur lesquels je mets le projecteur, que je décris. Dans tous les cas, le minimum d'intervention, d'invention de ma part. J'aime beaucoup la phrase que Eric Rohmer a dit sur Roberto Rossellini. Le génie de Roberto Rossellini était de ne pas avoir d'imagination. Je n'ai pas d'imagination non plus, je m'en flatte.
C'était un petit entrefilet en page 12. Le producteur Mazar a été retrouvé mort chez lui, il avait 39 ans. Il avait financé de nombreux cinéastes dans les années 70, Polanski, Ferreri, Jean Eustache, Jean-Luc Godard, Jean Yann. Charles arrêta sa lecture. Ça faisait 3 ans qu'il ne l'avait pas vu. C'était à Prague, il était déjà au bout du rouleau. Carole Bouquet, qui tournait un film, allait le récupérer dans les couloirs de l'hôtel pour touristes où il traînait en boxeur short et se faisait casser la gueule par les flics communistes de l'hôtel et insulté par les blondes putes, peroxydées, appointées pour espionner la clientèle. De l'hôtel, on apercevait le petit cimetière juif où les pierres tombales avec les noms dessus étaient frileusement entassées toutes de travers, penchées les unes sur les autres par manque de place. Même morts, ils avaient un ghetto. Son domestique marocain, à qui il interdisait de le déranger, l'avait retrouvé allongé sur le ventre dans son lit devant la TV en marche. C'est tout ce qui restait d'ailleurs. Plus un meuble. Appartement vide, blanc. Un lit, une TV vidéo sur le sol, c'est tout. Il n'avait pas tellement d'argent. Son yacht était loué avec l'équipage, le gentil capitaine italien. Son pouvoir était dans les mots, la force de sa parole, et tout reposait par ailleurs sur une simple feuille de papier. Dessus, Jean Ribou, séduit un soir par son charme et son brio, avait écrit qu'il lui donnait pouvoir pour le représenter dans la gestion de 30% des parts de Gaumont. Voilà, une mince feuille de papier et le sens du langage. Il avait une phrase. Il avait dit à Charles que c'était un dicton libanais. Écouter, c'est acheter. Parler, c'est vendre. Donc, Mazar avait perdu. Il avait failli gagner. Il était à deux doigts. Mais il avait finalement perdu face à Sédou, l'intraitable capital protestant. Le pur, le dur. C'est Mazar qui l'avait introduit dans la combine et qui très vite avait été évincé, classique. Mais là, il avait perdu parce qu'il voulait s'amuser. Et eux, à qui d'ailleurs il avait mis le pied à l'étrier, qu'il avait introduit dans la place avant de s'en faire évincer, Sédou, Toscan du Plantier, qu'il appelait Tocard du Planton, eux ne voulaient surtout plus voir ça. Cette exubérance baroque, cette folie, un certain art de vivre, il fallait le nettoyer, ne plus avoir ces images, qu'on n'en entende plus parler, plutôt l'ennui. Ce type qui sautait sur la table de joie au Carlton en regardant sur une ardoise le hit parade des films, les entrées de la grande bouffe montées vertigineusement. Un type, si les chiffres n'existaient pas, marquait ça à la craie. Et il criait « Je suis le roi du cinéma français ». Et il était sur le point de l'être. Pourtant, une toute autre voix, un jour, avait semblé tracée. Riche famille syro-libanaise, il a 20 ans, brillantes études de sciences politiques, ravissante fiancée qui se suicide. Alors, puisqu'une telle chose était possible, tout devenait permis. Et sa vie, très très vite, avait pris un tour endiablé. Son aspect méditerranéen, levantin, solaire, exubérant, ne mettait que mieux en relief les cernes, sa part d'ombre, de ténèbres autour. On ressentait au loin, très loin, sa faiblesse, son attrait pour le gouffre, mais sans aspect tragique. Et toute sa séduction venait de là, même auprès des plus durs, des plus puissants et blindés, sa séduction en même temps que l'horreur qu'il leur inspirait. Cette attirance pour l'abîme, tout le monde l'a plus ou moins, mais cachée le plus souvent. Lui, en plus, était l'élu de l'abîme. Vie flamboyante, élu du gouffre, ça me fascinait, racontait Charles à Ingrid. Qui ça ne fascinait pas alors? Et même les plus puissants, les plus riches. Et ça sentait toujours un peu le soufre autour de lui. Ça les attirait tous alors, les femmes surtout. Mais le directeur de chez Pathé l'avait prévenu. Jean-Pierre, je ne vous permettrai jamais de devenir le patron du cinéma français. Et en plus, pour lui, Gaumont n'était qu'un hors-d'œuvre. J'allais souvent le voir au Plaza, poursuivait Charles. Un soir, très très tard, on était au milieu de l'hiver, une épaisse couche de neige dans le patio en bas, les flocons qu'on apercevait entre les lourds rideaux à demi tirés, la lumière rosée reflétée dans les couvre-plats, chauffe-plats, théières sur la grande table roulante à rallonge, room service à 3 heures du matin, la cocaïne qui traînait sur la table de nuit. Un joli visage de fille a émergé dessous le milieu des draps quand je suis entré. Mazar a soulevé le grand drap en lin blanc et a dit en riant « Tu vois ça? C'est pas pour toi. » C'est vrai. La fille avait un corps superbe. Elle s'appelle Séverine. Et après un moment, il est sorti du lit et, en virevoltant, s'est mis à échafauder ses plans délirants. « Tu as pas compris, Charles. » Il n'était pas rasé, en caleçon long, avec du ventre, un petit sourire moqueur et gourmand, quelque chose de féminin, comme souvent les hommes orientaux. « Tu as pas compris. La Gaumont, ce n'est qu'un amuse-gueule. Ce que je veux, c'est la Fox, la Warner. » On ne savait pas s'il plaisantait ou pas, sans doute pas. Un serveur est venu. « Monsieur Mazar, la blonde de la 504 vient de rentrer avec le producteur marocain. » Il roulait des billets au personnel pour qu'on espionne l'hôtel, lui fasse de petits rapports. C'était comme ça, sans raison, pour s'amuser. Il était curieux des autres. En partant, dans un tiroir entrouvert de la commode, j'ai aperçu un revolver.
dans les vitrines des magasins, sur le stuc des marquises, les auvents, les grands sapins disposés de loin en loin, ce sont les éternelles décorations de Noël, encore là au mois de janvier. Une rhapsodie de guirlandes, boules dorées, petites couronnes de houx, ruissellement en cascade de filaments, de minuscules ampoules, comme une chevelure argentée en dreadlocks électriques. Une fragile pâtisserie en sucre filé phosphorescent. Mais, ainsi que dans une partition musicale, un nouveau thème s'annonce, d'abord discrètement, par un petit leitmotiv, un bref accord. 4 ou 5 notes. Qu'est-ce que ce ruban gancé rouge qui apparaît au milieu, sur la branche d'un arbre d'abord, ce motif décoratif inédit, s'intercalant, insidieux dans la fête. Il revient maintenant, un peu plus haut, dans l'avenue, devant les fourrures chez Saxe, ce ruban, comme une ponctuation un peu funèbre, dans ses pacotilles kitsch. Puis il éclate carrément en thème principal. Il n'y a plus que ça, ces petits papillons rouges sang, envolés des boutonnières, est venu s'accrocher sur les sapins du parvis, au fronton, tout autour des lourdes portes ouvertes de Saint-Patrick, d'où s'échappe la messe pour les morts à commencer, les accords d'une musique d'orgue. Cette musique se mêlait au bruit de l'avenue, les trépidations des voitures mal suspendues sur le bitume éclaté, leurs roues déglinguées sur la chaussée mal pavée, avec d'Odane, un vrai toboggan, et aux autres bruits de la ville. Un sourd roulement perpétuel, une rumeur lointaine suspendue, le bruit même de la ville, de l'abîme.
Je pense, toute ma vie, le livre, l'objet du livre, du début, comme petit enfant, des contes filles, après la Bible, après le Gesangbuch, le livre de l'Église, après les partitions, après les livres, l'écriture, les poèmes. C'était du début très important pour moi de toucher au livre. Le livre était pour moi, est resté un objet tellement important et tellement, dès que c'est bien écrit avec un style et pas n'importe comment, c'est un objet sacré pour moi, en même temps très, très proche de mon corps, presque physique. Je l'aime, je peux le toucher, j'ouvrir, je peux, elle devient physique, elle devient quelque chose qui s'accroche à mon corps. Et comme ça, elle est quand même autre chose que moi. Et pendant que Jean-Jacques, quand même, était d'après ce que j'ai dit, bon, on y va et j'ai plus rien à cacher devant toi, maintenant je veux raconter les choses que je t'ai jamais racontées, bon, on y va. Et Jean-Jacques, au début, était très, très réservé, timide vis-à-vis de moi dans ce cas, dans cette chose-là, mais après, quand il avait commencé, après 1-2 mois qu'il avait commencé, j'avais l'impression qu'il s'est attaché à cette personne qui commençait de vivre dans son livre, et il l'a suivi, il a insisté, et des fois c'était douloureux, oui, pendant que, l'écriture, parce qu'il ne questionne pas, il est magique, il a senti dès que je ne pouvais pas raconter, et il a insisté, mais en même temps je voulais, parce que je faisais confiance à l'écrivain. Et maintenant, ce qui s'est passé avec des choses très douloureuses, très pénibles, même obscène des fois que j'ai vu, où j'étais poussée dedans, j'ai un soulagement maintenant, c'est vrai, c'est magnifique, c'est entré dans une autre forme, dans un langage, que quelqu'un a trouvé un langage, des mots qui sont en partie analytiques presque, et aussi du côté de là où on ne sait pas tout. Et ils sont soulevés dans l'ombre et analytiques, oui, les deux, et ils sont soulevés dans le sens presque hegelien, dans d'autres domaines, et ça n'a plus rien à voir avec moi, avec ma vie, et je suis soulagée, c'est très beau. Et c'est un cadeau magnifique, je pense, pour beaucoup de monde, à travers Jean-Jacques Schuhl.
Est-ce que ça vous a rapproché, si besoin était? Qu'est-ce que ça a fait de...
Entre nous?
Oui.
Ah, il y avait une phase, pas pour lui, je pense, mais pour moi, un peu difficile, oui. Tout d'un coup... oui, mais je pense... non, ça nous a un peu éloignés un temps. Il faut, si vous demandez comme femme, là, vous avez bien senti, oui. Ça, et encore maintenant, il faut... C'est différent, ça change les choses. Et, mais comme nous deux sommes toujours intéressés à ça, ce qui se fait... pour l'artifice, pour l'art. Et alors, je pense, on va se retrouver ailleurs et je pense encore plus vital et mieux.
Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Nägeln besteckt, schlumpf unter die Deck.
Cette berceuse, tous les enfants allemands la connaissent. Elle traîne les pieds, s'approche de la rampe, tout au bord de l'immense scène. Elle a chanté les deux strophes correctes, très correctes, comme il faut. Elle les reprend maintenant, mais hésitante, comme à l'écoute d'autre chose, d'une autre voix, un peu faux. Mais ça correspond à quelque chose qui vit dans sa mémoire. Elle cherche à en restituer la vie, le mouvement du tracé tremblé, enfoui dans son souvenir. C'est curieux. Elle a d'abord chanté la version en place, correcte, définitive. Et ensuite, son ébauche tremblée, incertaine, entendue autrefois, à l'écoute, en même temps qu'elle chantait, penchée sur le gouffre, d'où monte la voix un peu fausse de sa mère. C'est elle qui chante, mais elle semble surtout écouter, tête inclinée, le buste penché sur le côté, l'ombre d'un sourire de vieil enfant malicieux, quelques sons très fins, bas, à peine audibles, mais très présents. Un suspense. On est suspendu à sa voix, comme elle, sur le gouffre noir devant. Elle recherche la sensation, le mouvement, de quand ça avait été la première fois chanté par sa mère, avec ses intonations un peu fausses. L'enfant l'avait remarqué tout de suite, avec son oreille absolue. Ça l'avait amusé, charmé. Mais aussi il devait donner un léger sentiment de supériorité. Sa mère, donc, était friable. La loi métronymique, la correction, réglée comme papier à musique, ça, c'était donné par le père, au piano. Elle a repris deux fois la berceuse. La première, correcte, c'était le père. La deuxième, incertaine, la mère. Une portée pour papa, une portée pour maman.
Bonne nuit. Si Dieu le veut, il te réveillera demain. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Il te réveillera demain, peut-être.
Mais qu'est-ce que c'est que cette berceuse? Un lit de rose, des clous piqués dedans. Un cercueil, alors. Bonne nuit. Si Dieu le veut, il te réveillera demain. Johannes Brahms, dit-on, était amateur de bordel. C'est qu'il aimait parfois composer chez la Madame Claude de l'époque à Vienne, chez Frau Claudia. Peut-être l'avait-il essayé en chantonnant au piano sur une pute, cette berceuse nécrophile, entre deux coups. Petit clou, lit de rose. Aimez-vous toujours Brahms ?
Thank you.
voilà, maintenant c'est la fin. Dans la grande halle, à la fine armature, l'horloge plaquée sur la paroi de métal marque l'heure, 11h22. Les lourdes portes en fer, le grand dôme, là-haut, coulissent lentement, s'ouvrent sur la nuit, quelques lumières au loin, métro aérien, tout a l'air dans l'air, les musiques creusent l'espace, très anciennes et semblant venir du futur. Elle accédait à son tour à un monde libre et hypnotique. Elle avait et transmettait l'impression d'inventer et aussi de ne faire que de découvrir des formes déjà là. Un son, un geste en émanait, un autre comme si ça se faisait sans elle et que c'était désormais cela son corps, de la musique. Quelques secondes, ne reposant sur presque rien, articulées, semblait-il, avec précision, par des fils lointains, elle fut, avec son ombre, un fugitif hiéroglyphe animé. À peine quelqu'un. Et dans un soudain renversement, il semblait que notre vie massive et chaotique n'existât alors que bien peu, face à cette illusion, tout là-bas, dans cette boîte. Ça avait été très bref, mais c'était fait. L'histoire, la sienne et la nôtre, s'efface. Elle laisse place à cette trace éphémère sur scène qui prend vie au bout du pinceau de lumière. Sous le charme des mots, le sortilège des musiques. C'est fini. Elle salue. D'abord, elle s'incline lentement, recueillie. Elle se redresse, un sourire, puis dans un large mouvement du bras, rend grâce. Désigne les spectateurs qui maintenant applaudissent. Certains debout, les quatre musiciens, pianiste, basse, saxo, violon, la feuille blanche illuminée sur le piano, sa main sourde sur ce qui est autour d'elle, tout autour, aussi le vide. Elle semblait dire « Et voilà ».
Je crois que s'il est un tout petit peu réussi, j'aimerais que ce livre, j'espère que ce livre, sous des dehors un peu chic, snob et superficiel, est également une défense du métissage sous toutes ses formes, culturelles, esthétiques et morales.
Coin de rue, une enfant, belle, très belle, très belle. Quelque part dans la ville, elle et moi.
C'était Jean-Jacques Schoule, fiction du modèle, avec Ingrid Cavan, Jean-Jacques Schoule, Josiane Savigno, Philippe Solers. Texte lu par Jean-Jacques Schoule, Garance Clavel, Jérôme Robard, Geneviève Crouzet. Jean-Jacques Schoule est l'auteur de 3 livres, Ingrid Cavan roman, Rose Poussière et Telex numéro 1, publié aux éditions Gallimard. C'était une émission de Patrick Amine, réalisée par Marie-Dominique Bougot, Cécile Dume, Brigitte Mazire, Jacques Taroni.
La douceur de ses lèvres. L'amour nous enveloppe.